Bonjour et bienvenue dans l'atelier des médias. J'ai beau sévir depuis des années en ligne pour dire que tout ce tohu-bohu du numérique, c'est un appel à la réinvention de l'écriture et des médias, mais je dois bien concéder que moi aussi, la course au buzz, au retweet, au like ou au snap pour le snap, ça m'a toujours ennuyé d'un ennui terrible et sans retour. Sans retour, oui, comme s'il s'agissait là d'une loi de l'histoire du numérique, une tragédie ordinaire pullulant sur les réseaux sociaux sans qu'on n'y puisse rien. Aussi, quelle n'a pas été ma surprise quand je suis tombé sur un article du site Politico il y a quelques jours. Cet article était titré de la manière suivante, et je traduis librement. Les médias historiques ont pris leur revanche. Leur revanche ?
Ok, on va faire un duel.
Dans cet article, j'y ai trouvé une information prodigieusement encourageante. Le New York Times et le Washington Post sont désormais passés devant BuzzFeed et le Huffington Post en termes d'audience mensuelle. Comme si finalement on était en passe d'inverser la vapeur. Alors voici ce qui m'est venu en tête. Journalisme de données, vidéo à 360, Facebook Live, mais aussi booktubing, récapator ou robot rédacteur. Les quotidiens de naguère ont donc, comme nous, changé de monde. Mais pour aller où ? L'atelier des médias vous propose donc d'attaquer un cycle de 2 semaines de réflexion sur la transformation de nos bons vieux médias papier. Dans quelques minutes, nous allons donc nous pencher sur le cas du monde.fr et du temps.ch. Mais tout de suite, je vous propose d'appeler Maurice Tantan au Bénin.
L'atelier des médias, le magazine du numérique et de l'innovation.
Bonjour Maurice.
Bonjour Julien.
Alors, je vous appelle parce que vous avez un tas de choses intéressantes à raconter à nos auditeurs. Et d'abord, on va faire peut-être les présentations. Alors, vous, Maurice, vous êtes une sorte de modo-blogueur devant l'éternel. Vous êtes journaliste web à l'ORTB. Et on vous retrouve, cher Maurice, sur Twitter, sur le compte @segla. Mais surtout, ce qu'on a envie de savoir, c'est que se passe-t-il ce week-end au Business Promotion Center de Porto Novo ?
C'est la 4e édition du blog Camp au Bénin. C'est la rencontre annuelle des blogueurs du Bénin et des acteurs du monde numérique en général. Pour la première fois, ce bloc se déroule sur 2 jours. Et pour cette première journée qui a commencé ce samedi, nous avons fait un panel sur le thème « L'éthique et la bonne gouvernance ». Je vous rappelle que le thème général de ce bloc est intitulé « Le blogging, une pratique démocratique ». C'est une interrogation à travers laquelle nous avons voulu explorer ensemble comment est-ce que les TIC peuvent contribuer au renforcement de la démocratie et à la promotion de la bonne gouvernance. Ensuite, nous avons eu une série de 6 communications sur des thématiques variées, comme les avantages du gouvernement ouvert ou la promotion des données ouvertes. Le blocage va se poursuivre demain dimanche. Nous aurons surtout une série d'ateliers pratiques sur la sécurité Internet et la protection des données personnelles.
Oui, parce qu'il est très important, bien entendu, d'avoir une navigation sécurisée pour rester indépendant et être sûr qu'on n'est pas écouté en permanence.
C'est ça, et c'est tout l'intérêt de ces ateliers pratiques. Et nous les avons voulu très pratiques pour montrer aux participants l'intérêt et leur donner rapidement les bases pour protéger leur vie en ligne.
Un autre aspect que j'ai pu découvrir sur votre blog, et je parle d'un billet de blog qui a été diffusé le 25 mai dernier, vous évoquiez justement le poids croissant des réseaux sociaux, et notamment de WhatsApp, avec ce qu'on appelle les comptes qui s'appellent « Lu pour vous ». Vous pouvez nous raconter ce que c'est qu'un compte « Lu pour vous » et surtout les problèmes que ça peut poser ?
En fait, ce ne sont pas des comptes, mais c'est, disons, une pratique qui consiste à relayer des contenus en signant pas « Lu pour vous ». Et ça pose un véritable problème de vérification de l'information parce que il se trouve que certaines personnes mal intentionnées ou pour des objectifs inavoués et fabriquent entre griffes une information. Et à la fin, pour ne pas en adosser la responsabilité, juste parce qu'ils savent que ça va circuler sur WhatsApp, ils mettent juste lui pour vous ou bien LPV comme sigle et ça circule, ça fait le tout. Malheureusement, personne ne le prend, sinon très peu prennent le temps de vérifier ces informations et font tourner. Et c'est ça qui est inquiétant et c'est ça qui a été beaucoup vu durant la période électorale.
Est-ce que les blogueurs se mobilisent justement pour dénoncer ou pour lutter contre cet intox diffusé par ces Lu pour vous au Bénin, Maurice Tantan ?
Oui, oui. Les blogueurs se mobilisent beaucoup et nos recommandations, c'est déjà de ne jamais relayer un Lu pour vous. Et de toujours signer nous-mêmes nos contenus qu'on écrit, nos analyses, que ce soit dans un groupe WhatsApp ou en ligne, de toujours signer les articles les contenus qu'on publie. Et quand nous organisons des ateliers de formation, on insiste également. C'est-à-dire, aujourd'hui, la seule chose qu'on peut faire véritablement, c'est la sensibilisation. C'est expliquer aux gens quel impact ces lupus peuvent avoir si on ne fait pas attention. Vous imaginez, par exemple, dans un contexte électoral, que quelqu'un prend une image qui a été prise ailleurs qu'au Bénin et dise que ça se passe au Bénin, il y a affrontement avec plusieurs morts et il met juste lui pour vous et que ça circule à grande échelle. Ça peut créer de la tension et c'est à travers ces exemples-là qu'on sensibilise les gens.
Si nos auditeurs ont envie de se joindre au Blog Camp pour réfléchir avec vous sur l'évolution des pratiques démocratiques et du blogging, Maurice Tantan, est-ce que c'est encore possible ?
Oui, c'est encore possible. Le Blog Camp est à suivre en ligne sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag BlogCamp 229. On peut également aller sur notre site internet blogueurdubénin.org ou nous suivre sur les réseaux sociaux.
Merci Maurice Tantan.
Merci à vous Julien.
Je rappelle que vous êtes mondoblogueur et responsable de l'Association des blogueurs du Bénin. Et pour plus d'informations, il suffit de taper dans votre navigateur blogueurdubénin.org. Merci.
Faites-nous part de vos actualités médias et innovations en publiant sur le site de l'Atelier des médias, atelier.rfi.fr.
Quoi de neuf cette semaine dans le radar de l'Atelier des médias ? La chasse à l'intox est ouverte avec la création du réseau First Draft Partner Network. L'enjeu est de taille. Les réseaux sociaux ayant démultiplié la vitesse de circulation des infos, il s'agit de tenter de mettre un coup d'arrêt aux propagations de rumeurs et de fausses informations. Pour ce faire, le réseau parie sur la collaboration entre des médias internationaux comme le New York Times, le Washington Post ou en France l'AFP, les Décodeurs du Monde, France Info, et les réseaux sociaux eux-mêmes. Facebook, Twitter ou encore YouTube sont bien évidemment en prise directe avec les utilisateurs. Il va donc s'agir, je cite, de développer des idées sur les manières dont le processus de vérification pour être rendu plus fluide, améliorer l'expérience de surveillance et surtout améliorer la qualité de l'information. Concrètement, le réseau s'engage à publier de nombreuses ressources permettant d'améliorer la détection de ces fausses informations qui apparaissent régulièrement sur nos fils d'actualité. Pour les mordus du réseau social Snapchat en mal d'informations, sachez que vous pourrez désormais retrouver 8 médias hexagonaux dans Discover, cet espace réservé jusqu'ici aux éditeurs de presse anglo-saxons. Le Monde, L'Équipe ou encore Paris Match, c'est très visuel et c'est évidemment vertical et sans préjuger du succès de cette offre spécifique, c'est en tout cas un bel exercice de style graphique qui mérite le détour. Qui veut péter l'Internet ? Une brève en forme de recommandation et c'est Xavier Delaporte qui nous a mis sur la piste du blogueur spécialiste de cybersécurité, Bruce Schneier. Pour le dire très vite, ce dernier raconte comment des organisations bien structurées lancent des attaques régulières et répétées contre des organisations centrales dans la gestion des infrastructures réseau et des noms de domaine. Autrement dit, loin d'y voir le fait d'un groupe de hackers ou d'activistes, le blogueur s'interroge sur les méthodes employées qui sont à ses yeux celles d'une armée, achetant ses armes pour la prochaine cyberguerre qui finira bien par arriver. Si vous voulez en savoir plus, c'est simple, retrouvez son blog schneier.com. Dernière info pour cette semaine, et pas des moindres, 1 million de dollars pour soutenir l'innovation média en Afrique. C'est le montant que pourront se départager les équipes qui remporteront le 1er décembre prochain le concours Innovate Africa. Allez donc faire un tour sur la page Facebook de l'atelier. Vous y retrouverez un entretien vidéo avec Pierre Gelado de l'agence de coopération CFI qui est partenaire du concours Innovate Africa. Ou, plus simple si vous préférez, allez directement à l'adresse innovateafrica.fund. Et rappelez-vous, les liens à la radio, c'est toujours compliqué. Eh bien, l'atelier, c'est magique. Nous venons juste de les tweeter sur @atelier_media.
RFI.
Il y a quelques semaines, nous étions au cœur du mois d'août. L'oisiveté battait son plein quand, tout juste arrivé au kiosque, je suis tombé nez à nez avec des quotidiens nationaux. Le Monde, Libération ou encore Le Figaro attendaient gentiment le chaland entre deux journaux locaux et trois magazines de Sudoku. Et là, j'ai eu comme une révélation. À force de voir passer sur Facebook des vidéos, des liens et des gifs sur Twitter ou des récapitulatifs des infos de la veille sur des applications mobiles, j'en avais presque oublié que le papier était encore là. Aussi, je me suis posé la question suivante. Les bons vieux médias papier se sont-ils définitivement transformés en médias globaux ? L'expression peut sembler hideuse, mais elle dit finalement assez bien les choses. Aujourd'hui, une rédaction doit pouvoir sortir des infos, quel que soit le support ou la plateforme. Production de vidéos, journalisme de données ou investigation en réseau, les innovations succèdent aux innovations et les pratiques ont, semble-t-il, bien changé. Je vous propose donc d'essayer de dresser un panorama de ce que sont devenues les rédactions. D'ailleurs, pour commencer, on va faire l'inverse de la règle de proximité avec nos invités, puisqu'on va accueillir deux éminents représentants de la rédaction numérique du Temps.ch. Bonjour Gaël Hurliman.
Bonjour.
Alors vous êtes rédacteur en chef du numérique du Temps.ch, qui, comme son nom l'indique, est basé en Suisse. Le numérique a-t-il pris le pouvoir au Temps ?
Presque. Non, on est dans un immense processus de transformation. Je pense que tout le monde peut dire ça dans tous les médias. Ce qu'on essaye de faire, nous, c'est d'éviter d'avoir une rédaction numérique. Le numérique, c'est le travail de l'entier de la rédaction. On ne veut pas laisser nos amis du print d'un côté et faire gonfler une partie web. On dit que c'est le savoir, tout ce qui a été emmagasiné comme savoir-faire par des journalistes qui ont fait du print, qui doit maintenant se transformer en savoir qu'on retransmet sur le web.
Alors, je vous ai posé la question pour deux raisons en particulier. La première, c'est que vous avez tout de même été sélectionné dans le cadre des Online Journalism Awards, et ce, dans la catégorie Excellence Générale. Alors, si j'ai bien compris, le résultat, c'est pour le 17 septembre. Pas trop le trac ?
Le trac, non, parce que j'y serai pas. Non, on envoie quelqu'un qui se trouve dans la région en vacances et qui accepte de nous représenter là-bas. Je pense qu'on a assez peu de chance, mais on est très content d'être dans cette liste.
Et la deuxième raison pour laquelle j'ai mentionné ça, c'est que vous êtes venu accompagné d'un cador de la boîte à outils et de la bidouille journalistique. Bonjour Jean Abiatessi.
Bonjour.
Alors vous, ça fait longtemps que je vous ai repéré. Vous ne vous êtes pas contenté de copiloter le très beau Reconstruire Haïti, que l'on retrouve d'ailleurs assez facilement sur la toile, ou de couvrir des élections municipales à Lannion avec des étudiants, puisque dès 2010, vous avez fabriqué ça.
Longtemps oublié de la révolution numérique, l'Afrique vit désormais, elle aussi, à l'heure du téléphone portable et d'Internet. En dépit de la pauvreté du continent, le mobile est arrivé jusque dans les villages de brousse les plus reculés. Dans les cybercafés des grandes villes, les internautes sont de plus en plus nombreux. Les changements économiques et sociaux induits par ces nouvelles technologies sont immenses.
Alors là, on entendait l'introduction d'Africascopie, mais depuis que de longs formats, Jean Abiatessi, finalement, partout où vous êtes passé, vous avez mis le souk dans les rédactions.
Écoutez, c'est un peu le souk, non, mais voilà, moi j'essaye d'amener ce que je sais faire, c'est-à-dire que moi j'ai travaillé comme journaliste freelance, j'ai travaillé aujourd'hui en rédaction. J'ai l'impression, voilà, c'est mon constat en arrivant au Temps, que c'est des très belles rédactions, très expertes, mais qui manquent un peu de souplesse dans la façon aujourd'hui d'appréhender un environnement informationnel qui est en mutation, qui demande une agilité que des rédactions petites ou grosses n'ont pas forcément. Donc moi, j'essaye d'amener ce que je sais faire, une capacité, il me semble, très immodestement, à proposer des idées, à proposer des projets, et puis à essayer de dire, voilà, on veut aller ici, comment on fait, on a besoin de quelles compétences, on a besoin d'avoir un développeur, on a besoin d'avoir un graphiste, on a besoin d'avoir un journaliste expert sur le sujet, et puis on y va ensemble et on essaye tranquillement, mais de manière assez comment dire, certaine, d'aller où on veut aller.
Et alors ça veut dire quoi? À chaque conférence de rédaction, chaque matin, vous écoutez finalement les sujets qui sont proposés par les uns et les autres, et vous vous dites, puisque vous êtes une rédaction numérique, comme le mentionnait Gaël Hurliman, vous proposez une nouvelle façon de le couvrir.
Alors nous, on est organisé de manière assez simple. On a une rédaction qui est une rédaction experte sur les sujets. En Suisse, on dit les matières, mais c'est la Suisse, l'Inter, l'économie, la société. Et puis, on a une édition web, comme le pendant de l'édition print, qui va éditer les sujets. Donc éditer, c'est au sens large, c'est-à-dire parfois c'est juste relire, rajouter des liens, ça va être rajouter de l'image, ça va être construire des formats dédiés, ça va être se dire ce sujet-là sur la Syrie, ça mérite pas un article, ça mérite une vidéo, ou on en fait une vidéo. Donc c'est vraiment un travail d'édition, d'accompagnement des rédactions, pour essayer voilà, de proposer un format qui va correspondre à ce qu'on veut essayer de faire.
Et ce qui vous a permis, justement, vous parliez par exemple de la Syrie, par moment, d'essayer de traiter autrement les choses, en disant, bah tiens, si on récupère telle carte et telle carte, on pourra avoir un autre regard, par exemple, sur les bombardements.
L'idée, c'est vraiment de garder une expertise d'un journaliste sur un domaine, et ça, c'est important parce que on voit parfois des rédactions qui ont une rédaction dédiée, web, une rédaction print. Nous, on est une petite rédaction, on est 80 journalistes, on n'a pas les moyens de faire ça. Donc, il y a une personne qui connaît la matière, qui connaît le sujet, et puis nous, on arrive pour apporter un savoir-faire de mise en forme, de diffusion. On apporte aussi un œil journalistique, c'est-à-dire qu'on va se dire, tiens, là, il manque une info, il manque une source. Mais c'est vraiment ce travail-là d'accompagnement qui nous permet voilà, c'est, en tout cas, c'est comme ça qu'on est parti, nous. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure solution, mais on essaye d'aller sur ce, dans cette direction.
Alors, Gaël Hurlimann, si je regarde la feuille de route des dernières transformations de votre site, donc du temps.ch, et de votre offre, finalement, c'est assez impressionnant. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper. Il y a eu la refonte du site, il y a eu le recours, on va dire, à un journalisme plus visuel, la fabrication de longs formats. Vous produisez quand même pas mal de vidéos, des enquêtes à partir de données. Vous avez organisé un hackathon. Il s'agissait d'exploiter autrement, en tout cas d'essayer d'exploiter autrement les archives. Et puis, vous avez une approche assez ouverte des innovations éditoriales que vous mettez en place, puisque vous partagez des bouts de code sur le compte GitHub. D'ailleurs, petit détail pour les auditeurs, GitHub, qu'est-ce que c'est ?
C'est un endroit où les développeurs partagent leurs créations. Ça peut être des choses qui se passeront sur le web, ça peut être des robots qui vont tweeter des contenus automatiquement, ça va être des petits bouts de code qui vont permettre d'analyser ou d'extraire des données d'un autre site. Et ça, on en bénéficie beaucoup, on utilise beaucoup de code qu'on a trouvé nous-mêmes sur GitHub, et on propose notre code pas forcément juste pour être très gentil avec tout le monde, mais parce qu'on sait que c'est la meilleure manière de le voir améliorer et de voir d'autres gens contribuer à des projets que nous, on a initiés.
Et c'est pour ça que ça donne l'impression de cette agilité et de cette efficacité dans la mise en place de tous ces projets consécutivement ?
Alors on a, je pense, Jean et moi, fait les mêmes expériences dans d'autres entreprises de presse où on attend d'avoir un produit ultra fini et magnifique pour le lancer, et on sait que on n'a pas les moyens, on n'a pas la force de frappe technologique comme peuvent l'avoir d'autres groupes pour rentrer dans ce mode-là. Donc on se dit, oui, nous on admet d'être en mode laboratoire. Les deux, trois premières fois qu'on utilise un nouveau mode narratif, je sais pas, nos premières galeries photos d'un nouveau genre, nos premières cartes interactives. Et puis c'est seulement ensuite qu'on essaye de rendre la chose un peu plus industrielle, si on veut.
Et question toute simple, peut-être même la question qui fâche, les retours des internautes, enfin, c'est-à-dire les retours des lecteurs.
Alors ça fâche pas vraiment, parce que sur ces projets-là, sur ces projets de narration nouvelle, nous on mesure beaucoup le temps passé. On se dit que c'est un marqueur de qualité plus que de quantité de gens attirés. On se dit, ça, c'est un marqueur de la qualité du titre Le Temps. On a un savoir-faire dans la narration numérique avec ces nouveaux formats et on voit que ça répond très bien. On voit qu'on a des bons retours, des gens qui restent 7, 8, 10 fois plus que sur un autre contenu classique.
Alors Gaël Hurlimann, Jean Abiatessi, je vous propose d'essayer de croiser les regards et les retours d'expérience, et avec nous, sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Nabil Ouakim, qui est directeur de l'innovation éditoriale. Bonjour Nabil.
Bonjour.
Alors première question toute simple, l'innovation éditoriale, aujourd'hui on a l'impression que ça peut être tout et n'importe quoi, le champ des possibles est finalement presque infini. Quand vous avez été nommé, qu'est-ce qui vous a semblé prioritaire en tant que directeur de l'innovation éditoriale ?
C'est vrai que innovation éditoriale, ça peut paraître un terme un peu barbare, d'ailleurs on l'a inventé, cette direction de l'innovation éditoriale dans laquelle on est plusieurs au monde, avec l'idée de dire c'est très difficile d'être à la fois aux manettes de l'actualité, c'est-à-dire conduire ce qu'on doit couvrir de la manière la plus sérieuse et complète possible sur le site, sur nos applications et dans le journal, et en même temps de réfléchir à notre présent et notre futur, comment on doit évoluer. Et je dirais que c'est de trois ordres. Le premier, c'est évidemment la question des formats dont nos amis du temps viennent de parler, c'est-à-dire comment on raconte des histoires en utilisant les meilleurs formats possibles. Ça peut être de la vidéo, ça peut être de la photo, ça peut être des grands formats, ça peut être de l'interactivité. Ça, c'est vraiment un sujet qui nous préoccupe beaucoup. Et évidemment, ce qui nous préoccupe dedans, c'est comment on fait arriver notre journalisme, qu'on essaye d'avoir le meilleur possible, au plus grand nombre de lecteurs possible. Et ça, les formats, c'est vraiment un outil pour ça. La deuxième chose, c'est une question d'innovation éditoriale en termes de thématique. C'est de se dire, aujourd'hui, le monde n'est plus ce qu'il était quand il était uniquement un journal papier, un quotidien qui faisait pour, entre guillemets, l'honnête homme, le bilan de l'actualité politique, internationale et culturelle. Aujourd'hui, le monde et ses sites et applications, c'est plusieurs millions de lecteurs. Et dans ces plusieurs millions de lecteurs, il y a une diversité d'appréciations, de points de vue, de sujets. Et donc, la question de l'innovation éditoriale pour nous, c'est comment on s'adresse à ces différents lectorats, comment on est le monde tout en pouvant parler de jeux vidéo, comment on est le monde pour pouvoir parler à un public africain qui s'intéresse peut-être pas au même sujet que le public qui est en métropole. Et puis, le troisième sujet pour nous, c'est celui de la transformation de la rédaction. C'est-à-dire que l'innovation éditoriale, c'est pas simplement théorique, c'est très pratique, puisque c'est comment on transforme notre organisation qui est en mutation permanente de ce qui était à la base un média papier et qui devient ce que vous avez qualifié tout à l'heure de média global, même si ça peut paraître un peu bizarre, mais en tout cas une rédaction qui peut travailler indifféremment pour des applications mobiles, pour un site, pour un journal, pour un magazine, etc.
On marque une petite pause si vous le voulez bien et on se retrouve dans 3 minutes après le flash pour continuer à parler de la métamorphose des groupes de presse. Atelier des médias, deuxième partie. Nous sommes toujours avec Gaël Hurliman et Jean Abiatessi qui nous viennent de Genève pour nous parler du temps.ch et avec Nabil Wakim du Monde pour faire le point sur la transformation des médias. Nabil Wakim, donc on continue si vous le voulez bien et je voudrais qu'on revienne sur les évolutions du Monde et du Monde.fr et je vous propose d'écouter ceci, on est en janvier 2010.
Aujourd'hui dans l'actualité, on a Sarkozy qui commence ses vœux. Donc il y a les vœux au gouvernement.
Le Monde.fr, c'est le premier site d'information français. C'est un site qui emploie une centaine de personnes, dont plus de 40 journalistes. La mission de ces journalistes, c'est de mettre en ligne le contenu du journal Le Monde, mais aussi et surtout de couvrir en continu toute l'actualité nationale et internationale et de la mettre en ligne en temps réel.
Le Monde.fr est un site qui est ouvert à la participation des internautes. Tous les abonnés peuvent créer leur blog et s'exprimer sur les sujets de leur choix. Il y a même certains blogueurs très connus, comme Sylvain Marconnet, par exemple, qui est joueur de rugby au Stade français.
Je trouve que c'est un moyen de communication très intéressant quand on est sportif parce que c'est vrai que le blog me permet de donner mes impressions, de faire partager mon quotidien avec un public nombreux. Donc voilà, c'est une histoire de partage, le blog.
Il y a plus de 7000 blogs d'abonnés sur lemonde.fr et quand une note de blog est très intéressante et en rapport avec l'actualité, la rédaction peut décider de la remonter en une du site.
À l'époque, lemonde.fr, c'était 40 journalistes, 300 articles par jour, 100 000 abonnés en ligne. Alors aujourd'hui, Nabil Wakim, on en est où ?
Alors, aujourd'hui, il n'y a plus deux rédactions différentes. Il y a une seule rédaction du Monde et qui est tournée principalement vers le numérique. Évidemment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça me fait rire d'entendre ces extraits parce que je mesure le chemin parcouru, même si dans une rédaction comme la nôtre, on passe notre temps à se plaindre que ça ne va pas assez vite. En réalité, les choses évoluent. On avait deux entités différentes qui habitaient dans des locaux différents, qui se parlaient difficilement. Aujourd'hui, on a une seule rédaction avec un central web, avec une équipe qui est dédiée à l'actualité chaude et avec tout autour des services qui sont les services de la rédaction, celle de la rédaction dite traditionnelle, le service international, le service politique, etc., etc., mais aussi des services qu'on a constitués d'abord orientés vers le web. C'est le cas de l'équipe des décodeurs, par exemple, qui fait de la pédagogie, notamment sur la politique. C'est le cas de l'équipe de Pixel, qui travaille sur les questions numériques et le jeu vidéo. C'est le cas de l'équipe du Monde Afrique, qui s'adresse principalement au public africain. Et donc, tous ces services-là contribuent tous ensemble au site. Certains ont des déclinaisons papier. C'est le cas du service sport, qui a un cahier sport, etc. Mais ils sont tous tournés vers la production numérique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un site qui a à la fois la capacité à être réactif sur l'actualité chaude, mais en même temps à produire du contenu original, différent, que les internautes n'auront pas vu ailleurs et qui leur donneront des clés de compréhension de l'actualité qu'on espère les meilleures possibles.
Ça doit être assez compliqué quand même d'accompagner les journalistes vers ce changement qui est assez radical, puisque, comme on le disait au départ, c'est pour ça que je parlais de cette expression un peu hideuse de médias global, en fait, on ne produit plus du papier de manière quotidienne. Quel que soit le support, il faut qu'en tant que rédaction, avec son regard et ses infos, on trouve un moyen de le porter à la connaissance de son public ou de ses publics.
Absolument. Et on est des journalistes, mais on est aussi des êtres humains. C'est-à-dire qu'on a des médias d'origine. Moi, je suis issu du numérique et c'est vrai que je pense d'abord le site. Quelqu'un qui a travaillé pendant 10 ans ou 20 ans pour un quotidien papier va d'abord penser à la manière dont son article ou son enquête sera présenté dans le journal papier. Et c'est comme ça et on ne va pas demander aux gens de changer. Par contre, ce qui est important, c'est que tout le monde comprenne que notre travail, c'est de s'adresser aux lecteurs. Et que les lecteurs, aujourd'hui, ils sont différents, ceux qui achètent le journal ou qui y sont abonnés. Ils sont différents, ceux qui lisent l'édition gratuite du Monde.fr. Ils sont encore différents de ceux qui sont abonnés au Monde.fr. Et que donc, il faut qu'on soit capable de s'adresser à ces différents publics. La solution, elle passe évidemment par énormément de pédagogie en interne, beaucoup de discussions et d'abord des discussions éditoriales. Et je voudrais insister sur ce point, c'est-à-dire que on croit souvent qu'il suffit d'avoir la bonne organisation et puis de dire bon, voilà, maintenant, on est tous dans un même espace et on va travailler côte à côte. C'est évidemment plus compliqué que ça. On s'adresse là à des journalistes et c'est parce qu'on construit des projets communs dont on pense qu'ils ont du sens éditorialement qu'on va réussir à faire basculer les gens vers d'autres supports.
Par-delà le savoir-faire en matière de collecte d'informations, il y a aussi des compétences techniques à avoir. C'est d'ailleurs assez drôle en fait de lire les fiches de poste des journalistes aujourd'hui. Il y a plein de questions qui se posent. Faut-il savoir coder ? Faut-il savoir tourner avec son mobile ? Par exemple, au monde.fr ou au monde d'ailleurs, parce que finalement, est-ce qu'il y a un monde.fr ? Non, il y a le monde. Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ces compétences.
Je dirais que notre priorité, c'est quand même d'abord de chercher des très bons journalistes. C'est notre vraie priorité. On pense qu'il y a un certain nombre de compétences techniques qui peuvent s'apprendre, mais on pense surtout que tout le monde n'a pas à tout faire. On pense que c'est irréaliste d'avoir des gens qui soient des excellents développeurs et qui soient journalistes en même temps. Il se trouve qu'on en a quelques-uns parce qu'on a cette chance-là au décodeur, mais c'est des perles rares. C'est irréaliste de demander aux gens d'être très bons à l'écrit et excellents en motion design, en vidéo. Tout ça est très difficile. Il y a des spécialités. L'important, c'est qu'on parte sur une base journalistique sérieuse et pertinente. Ensuite, on peut construire là-dessus en fonction aussi des appétences des gens pour tel ou tel type de format.
C'est un peu ce qu'on peut ressentir au temps.ca, j'ai l'impression. Par exemple, quand on lit un long format sur le Saint-Gothard ou sur de la mécanique de précision, on sent qu'il y a une expertise éditoriale au départ. Et puis, en termes de mise en forme, il y a eu une réflexion sur le fait de porter justement un format adapté à la connaissance du public. Galure Liman.
Oui, je crois que c'est un des succès qu'on a à l'interne hein, en termes d'organisation. On a commencé par faire beaucoup d'affirmative action, être très actif au briefing, être très actif le matin, dire aux journalistes ton sujet, on pourrait le décliner ainsi, mais évidemment, on partait d'un produit ou d'une réflexion qui était d'abord pensée print. Donc, on a donné beaucoup de cours, y compris ces cours classiques, tourner avec son mobile ou d'autres, comment interpréter les statistiques web, comment construire un long format. Mais c'était un prétexte. C'était un prétexte pour que ça rentre dans la tête des journalistes, pour pas forcément pour qu'ils deviennent experts techniques, mais pour qu'ils sachent que ça existe et qu'ils peuvent raconter leur histoire, qu'ils peuvent transposer leur expertise dans ce mode de narration-ci ou celui-là. Et les longs formats, maintenant, on voit des gens qui partent en reportage et qui pensent d'abord au long format avant de penser au rendu print.
Oui, c'est un peu ce qu'on peut ressentir. D'ailleurs, Jean Abbiatesi, quand vous avez, par exemple, débarqué dans la rédaction, c'était il y a un an, quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez dû convaincre, évangéliser en un certain sens, en montrant les longs formats qui vous intéressaient, pour ensuite dire, tiens, quand tu partiras enquêter sur ce qui se passe dans cette station de ski, voilà comment on peut le traiter.
La question, il me semble, je reprends votre question un peu à l'envers, mais la question, il me semble, c'est qu'il y a de l'envie. Enfin, nous, on voit autant, il y a des gens qui ont l'envie. Après, je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où l'organisation est importante, dans le sens où d'avoir à disposition les compétences pour fabriquer ce qu'on veut faire, c'est important. C'est-à-dire que si on a les meilleures idées du monde, si on n'a pas un bon développeur qui peut mettre ça en forme, une bonne iconographie qui va mettre en majesté des images, ça c'est vraiment, je pense, assez crucial. Et j'ai l'impression, je prends l'exemple du temps que je connais bien, c'est on a réussi à mettre ça en place. C'est-à-dire qu'on est capable de mobiliser très rapidement dans le tempo de l'actualité ces compétences-là pour fabriquer le long format. J'ai perdu le fil de votre question.
C'était juste comment, quand vous êtes arrivé, finalement, vous avez réussi à susciter l'appétit pour ces nouveaux formats, pour ces longs formats, en montrant que ce n'était pas qu'une question de forme. Il y a même, quelque part, une question de valorisation du fond et peut-être même de maximisation de l'impact du travail qui est fait sur le terrain.
Je rejoins Nabil Wakim, c'est vraiment important, c'est d'avoir une assise journalistique solide. À partir de ça, du moment qu'on ne transige pas sur une qualité de contenu, qu'elle soit vidéo, texte, photo, peu importe, on peut construire. Et là, on va amener à chaque fois l'expertise d'un service, l'expertise de l'iconographie, l'expertise du design, l'expertise du développement. Et c'est comme ça qu'on arrive et on fait le premier projet. Souvent, ça, c'est compliqué, ça demande du temps, il arrive en retard. Le deuxième se passe un peu moins mal. Le troisième commence à se passer pas trop mal. Et puis le quatrième se passe plutôt bien. Donc c'est comme ça qu'on arrive aussi à amener les gens. Puis les gens voient tout de suite l'impact aussi d'un format, d'une vidéo, d'un chat avec les internautes. Donc c'est comme ça, c'est par l'exemple, je pense, qu'une rédaction peut se transformer. Alors, sans discours théorique.
Alors je crois que Nabil Wakim voulait réagir.
Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que sur la question des formats, ce qui est central, c'est évidemment d'avoir une base journalistique solide. Après, ce qui est compliqué pour des journalistes qui sont issus de l'écrit, c'est d'admettre qu'ils ne sont pas tout seuls. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on est reporter au Monde, on part tout seul. Parfois, le photographe part même pas avec nous. On fait son reportage, on l'écrit, on revient, et puis on est content, on a écrit 9000 signes. C'est en général formidable et on en est très fier. Simplement, quand on veut produire un format numérique sur le web, qu'il s'agisse de vidéos, qu'il s'agisse de grands formats, quel que soit le type de format, en fait, il faut apprendre à travailler à plusieurs et il faut admettre qu'on n'est qu'un parmi d'autres. C'est-à-dire que c'est important, il faut être un très bon journaliste, mais en même temps, il faut avoir l'ouverture d'esprit et en quelque sorte l'humilité d'admettre que des développeurs, des graphistes, des gens qui ont d'autres compétences puissent nous dire en fait, ça va pas. En fait, ça, c'est trop long. Là, il y a trop de texte. Ou bien, on arrive trop tard. En fait, on aurait dû se poser ces questions-là plus tôt. Ou bien, ça va prendre un mois à développer. Parce qu'en fait, on est dans ce terrain d'expérimentation-là et il faut que pour que ces formats-là ils soient utiles du point de vue des lecteurs, il faut qu'ils soient pensés depuis le début comme des formats et pas juste une belle coque pour un article de 20 000 signes. Parce qu'en réalité, je ne sais pas combien vous lisez d'articles de 20 000 signes chaque jour, mais je crois que la plupart de nos lecteurs, en tout cas, le font assez peu. Et donc, du coup, il faut trouver ce bon équilibre-là entre l'importance qu'on donne au visuel et l'importance qu'on donne au texte. Et ça, je pense que c'est vraiment important.
Autre changement assez radical, c'est évidemment le fait que les rédactions se mettent à produire de plus en plus de vidéos. Et on a l'impression que le modèle ou le gabarit type a été fixé par Al Jazeera Plus. Gal Hurliman.
C'est vrai, c'est un des formats de vidéo qui fonctionne très bien, celui que vous voyez sur les réseaux sociaux où la vidéo est souvent noyée derrière du texte. C'est un petit peu le défaut de ce format-là. Donc, il marche parce qu'on sait qu'il n'y a que 20% des internautes qui activent le son sur Facebook. Et 20%, c'est encore un chiffre relativement haut. Mais ce n'est pas l'unique format. L'autre chose qui fonctionne très bien, et là, on se pose plutôt la question de à quel type de média elle convient, c'est ce qu'on note nous pour un média de qualité, j'imagine que c'est la même chose pour le monde, c'est tout ce qui est infographie animée, motion design, l'explication sous forme infographique, vidéo, est un produit qui fonctionne extrêmement bien, qui fonctionne de nouveau, on prend toujours le même exemple, parfois mieux que le texte. Et faire admettre ça au journaliste qui a passé 20 ans à écrire des 15 000 signes sur le conflit entre sunnisme et chiisme, c'est quelque chose qui est compliqué. Il faut venir après avec les chiffres, il faut venir après avec des feedbacks qualitatifs, il faut venir ensuite lui dire « et si tu pensais d'abord à ça avant de penser à ta page ?»
Il est toujours étonnant de voir comment les médias ont évolué dans leur positionnement par rapport à la vidéo. Je me suis amusé à aller voir sur YouTube et notamment sur lemonde.fr. En 2011, on avait par exemple des vidéos brutes comme celle-ci. Alors ce qu'on entend derrière, c'est la vidéo brute, une vidéo amateur de la capture de Kadhafi. C'était en 2011 et donc on voit bien qu'on a là finalement une utilisation de YouTube comme plateforme d'hébergement d'une vidéo documentant les événements d'actualité. Et puis cet été, on a eu une vidéo comme celle-ci. On écoute.
Cette année, les athlètes du monde entier se sont donné rendez-vous à Rio.
Rio ?
Rio ?
Brésil !
Avant même d'avoir démarré, les Jeux Olympiques de cette année ont battu un record. Il y aura 207 délégations dans la métropole brésilienne.
C'était donc une vidéo qui nous parle des Jeux Olympiques. C'est une vidéo où il y a du graphisme, c'est très visuel, c'est animé, il y a de la musique. Il y a même des séquences avec une écriture un peu culture numérique, culture web. Est-ce que ça veut dire qu'au monde.fr, la vidéo est devenue un chantier prioritaire, Nabil Wakim ?
Oui, c'est vrai que la vidéo est devenue pour nous un vecteur d'information qui était plus important qu'avant. Après, on reste majoritairement un média issu du texte. C'est-à-dire, on a une équipe de 350 journalistes et on a une équipe de 12 journalistes à la vidéo. Donc, il faut aussi voir que même si on est plus gros en équipe vidéo que d'autres médias, on est aussi très fortement contraint par ça. C'est-à-dire, on ne pourra jamais rivaliser avec des équipes du type de celle de France Télévisions ou de BFM. Et donc, du coup, il faut qu'on choisisse. Et c'est un vrai avantage d'avoir à choisir parce que du coup, ça nous oblige à nous dire mais quelle est notre identité éditoriale en vidéo ? Question qu'en réalité, on essaye de se poser sur chacun des formats. Et c'est vrai que nous, ce qu'on a choisi, c'est de coller très fort à l'identité du site. L'identité du site, c'est on explique l'actualité au moment où elle se passe. Il se passe un événement, on va donner l'info. Donc ça veut dire qu'en images, on va essayer de donner ces images-là. Parfois, elles seront brutes, parfois, elles auront un peu d'explication le plus vite possible. Mais surtout, dans le laps de temps le plus court possible, on va essayer de donner des éléments de compréhension le plus rapidement possible. Et ça, ça peut passer par une interview en plateau d'un expert ou d'un de nos journalistes qui peut raconter, expliquer ce qu'elle est cette situation. Ça va passer, bien sûr, par de la cartographie pour expliquer dans des vidéos types dessous des cartes quels sont les rapports de force géographiques dans une crise internationale, par exemple. Ça va passer par le type de vidéo qu'on vient d'entendre sur les JO où on va être dans un vocabulaire en fait beaucoup plus proche des lecteurs, des internautes, avec l'idée que ces vidéos-là, elles ont aussi pour fonction, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, de s'adresser à un public qui est peut-être plus large que le public traditionnel du monde, notamment à travers la pédagogie.
Oui, le journalisme d'explication, au fond, c'est l'un des axes de développement, que ce soit au temps.ch ou au monde.fr, et qui permettent aujourd'hui d'essayer de positionner autrement dans un environnement où il y a beaucoup de notifications et beaucoup de bruit, finalement, chacun des journaux. Jean Abiatessi, j'ai l'impression que vous aimez ce genre de format au temps.ch.
Alors nous, on est une équipe beaucoup plus petite qu'au monde. Il y a deux journalistes qui s'occupent de ça. Mais après, je rebondis sur ce que dit Nabil Wakim, je pense que l'important, c'est vraiment l'identité. Qu'est-ce que le temps ? Qu'est-ce que le monde ? Qu'est-ce que Libération ? Je pense qu'il faut être rigide sur son identité. Quel est mon journal ? C'est quoi ses valeurs ? Et souple après pour les formats. Ça, c'est vraiment important. Sur la pédagogie, je pense que c'est évidemment c'est un levier qui marche bien parce qu'on est, c'est une mission presque d'ordre du service public d'expliquer l'information. Et on voit bien très vite comment on se distingue par rapport à des médias qui sont plus dans le flux. Et très vite, on voit, voilà, on arrive à se positionner. Et je pense qu'à terme, ça paye par rapport au lecteur.
Par-delà l'explication, il y a aussi l'enquête et le collaboratif. Au temps.ch, vous avez développé une approche susceptible de plaire et d'intéresser d'ailleurs nos auditeurs, puisque une innovation ne vaut que si elle est partagée sur GitHub, comme on le disait tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de la façon dont votre enquête sur Airbnb s'est retrouvée d'ailleurs dupliquée ici ou là dans l'espace francophone? Alors, Jean Abiatessi, je vous laisse continuer.
Alors, l'enquête sur Airbnb, c'était un cas assez... qui n'était pas contrôlé. On avait fait une enquête sur une de mes collègues faisait une enquête sur Airbnb à Genève, qui est une ville où la pression immobilière est enfin locative est très forte, donc il y avait un vrai sujet. Et puis elle commence son travail, puis j'étais à côté d'elle, puis je lui dis est-ce qu'on pourrait pas aller voir les données plutôt que faire un travail un petit peu empirique, on va voir s'il y a des multipropriétaires à Genève. Donc on a fait ça en une heure, on a récupéré les données, on a réussi à trouver des multipropriétaires Airbnb, donc des gens qui avaient entre guillemets, en gérance d'appartements, 70, 80 appartements à Genève. Donc là, il y avait un vrai sujet journalistique. Donc on a fait un sujet là-dessus. Et après, ce qu'on a fait, moi j'avais fait un petit post de blog pour dire voilà comment on a travaillé. Voilà comment on a fait. Si vous voulez faire la même chose sur votre ville, vous pouvez faites-le, c'est intéressant. Et c'est vrai que voilà, ce projet a pris de l'ampleur, j'en suis ravi. Dans d'autres, à Paris, je crois, en Belgique, au Canada... Et voilà, d'autres ont trouvé justement, ont essayé de montrer la face cachée d'Airbnb dans les métropoles du monde entier.
Donc, par-delà ce partage d'expérience, il y a aussi le développement de ce qu'on pourrait appeler l'enquête en réseau. Au Monde, ce qui a marqué évidemment notamment cette année, ce sont les Panama Papers. J'imagine que c'est pas la première ni la dernière enquête en réseau et en consortium pour le journal. Nabil Wakim, malgré tout, est-ce que ça change pas assez radicalement la façon de travailler, puisque finalement, c'est plus à l'intérieur d'une seule rédaction qu'on travaille en secret. Finalement, on travaille en capillarité avec d'autres groupes d'enquêteurs. Nabil Wakim.
Bien sûr, c'était une expérience formidable pour nous. On a eu une équipe de plusieurs journalistes qui a travaillé pendant 9 mois sur les Panama Papers, donc avec le Consortium International d'Investigation Journalistique, l'ICIJ, qui est donc basé à Washington, mais qui travaille avec des rédactions dans le monde entier. Et c'était une expérience très intéressante parce qu'elle nous a permis à la fois de bénéficier des recherches journalistiques que les autres avaient pu faire, c'est-à-dire des noms qui vous voyez passer dans les fichiers sur les Panama Papers, qui pouvaient nous intéresser, nous, et sur lesquels nous, on pouvait apporter des choses. Ça nous a permis de bénéficier de leur expérience en termes de format, de la manière de raconter les histoires. On l'a vu notamment sur la vidéo, qu'il y a des gens qui ont fait des choses qui étaient beaucoup plus intéressantes que nous, et donc du coup on a pu partager avec eux cette expérience-là et on s'en inspire encore aujourd'hui. Et puis je pense que pour d'autres, on a pu aussi être utile, puisqu'on a pu mettre en place des outils qui ont permis de mieux rechercher dans les fichiers, qui ont été utilisés ensuite par l'intégralité des journaux qui ont participé à l'opération, mais aussi on a su aiguiller certains médias dans d'autres pays en disant « bah tiens, nous on a vu ces noms-là dans la base, ça peut vous intéresser ». J'ajoute que c'était même une expérience intéressante en interne pour nous parce qu'on a fait travailler ensemble à la fois des gens qui viennent vraiment du numérique, donc qui sont issus de l'équipe des décodeurs, donc qui sont des gens qui savent coder, qui ont un regard vraiment très numérique, mais qui en même temps travaillent beaucoup sur les questions de pédagogie, de comment on explique, et des enquêteurs chez nous plus traditionnels qui sont habitués à travailler sur des enquêtes ou sur l'évasion fiscale, mais qui ont parfois plus de mal à rendre ça plus accessible au grand public. Et l'interaction entre les deux s'est vraiment très bien passée et c'est là où on a vu, nous, la différence. Alors c'est vrai que les Panama Papers avaient une ampleur mondiale, mais on a vu aussi que les contenus les plus lus sur les Panama Papers, c'était aussi les contenus les plus pédagogiques, ceux qui expliquaient le plus possible. On a fait un petit serious game, un petit jeu pour se mettre dans la peau de quelqu'un qui voulait mettre son argent sur un compte offshore, et c'est un de nos meilleurs succès dans le traitement de cette affaire des Panama Papers.
Alors si on continue à parcourir comme ça les innovations qui ont pu marquer l'année et qui peuvent toucher chacune des rédactions dont on parle, il y a eu le recours aux robots rédacteurs pour couvrir notamment des élections en générant en fait des rapports automatiques sur la base de données qui finalement sont bien qualifiées et structurées. Enfin, je parle tout simplement des résultats aux élections. Est-ce que Le Monde mise et investit sur cette collaboration entre des journalistes et des robots? Et puis en interne, est-ce que ça se passe bien finalement? Est-ce que les journalistes reçoivent bien le fait de se dire désormais il faut travailler avec des robots? Nabil Wakim.
Alors, les robots ne prennent pas encore toute la place à la cantine, donc la collaboration se passe assez bien. C'est vrai qu'on a fait des expérimentations sur les élections départementales et sur les élections régionales, les deux dernières, où les fiches de résultats étaient écrites en partenariat avec une entreprise spécialisée là-dedans, étaient écrites par des machines. C'est une expérience qu'on a très envie de renouveler et qui nous intéresse beaucoup. On se rend bien compte qu'elle n'est pas duplicable, elle n'est duplicable que dans certains cas très spécifiques. C'est plutôt vécu comme une expérience assez enthousiasmante du point de vue des gens qui s'y intéressent, en tout cas dans la rédaction. La plupart, je dirais, des journalistes de la rédaction voient pour l'instant ça de manière assez lointaine. C'est-à-dire qu'à la fois, ils pensent que c'est intéressant. Il y a une partie d'entre eux qui se dit, bah tiens, ça va nous éviter de faire un certain nombre de tâches un peu répétitives. Voilà, il y en a qui se disent, bon, d'accord, mais jusqu'où ça va aller? Cette interrogation-là, elle existe, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on est vraiment au stade de l'expérimentation.
Autant point CH, est-ce que c'est un débat qui a eu lieu? Est-ce que c'est un projet qui est en cours? Ou est-ce que ça reste encore assez loin de la réalité du temps .ch? Yael Hurliman.
Alors, on a quelques projets en cours, mais ça a été surtout un débat houleux, hein. Ça a été un débat où des journalistes ont dit, mais jamais un robot ne pourra prendre ma place. Mais quand on fait un petit peu de pédagogie, qu'on dit qu'effectivement ça peut décharger la personne d'une partie de tâches répétitives, vous parlez chaque année d'un festival, vous parlez chaque année de Pâques, de Noël, vous avez une partie de votre article qui va fatalement se retrouver très proche de ce qui a été écrit les années précédentes et cela depuis des décennies, vous comprenez bien, si vous avez un petit peu d'intelligence, qu'il y a des tâches comme celle-ci qui pourraient être largement automatisables. Donc on présente toujours la chose en disant c'est un appui journalistique, ça va pas vous remplacer, et si ça vous remplace, c'est peut-être que vous n'avez pas de valeur ajoutée assez flagrante par rapport à ce que pourrait faire un robot. Donc pour rentrer dans le concret, on a un projet que Jean a soumis à Google, à Saint-Google. On espère qu'il va nous payer ça. Jean, tu veux en dire un mot?
Jean Abiette, ici.
Non, c'est un projet donc qui essaye d'identifier dans notre masse. On produit chaque jour, on produit 70-80 articles, et puis chaque jour c'est 80 articles en plus. Donc ça, on a une matière qui tombe et qu'on oublie. On a l'idée d'un algorithme, enfin d'un robot, appelons comme on veut, mais qui va pouvoir lire ces articles et se dire, cet article-là, on va essayer de l'évaluer, lui donner une qualité, automatiquement. Donc ça ne veut pas dire qu'un regard humain ne le ferait pas, mais on va essayer de se dire, ce papier-là, est-ce qu'il a été partagé? Est-ce qu'il a une audience qui s'échelonne sur une certaine période? Est-ce qu'il est lu longtemps par rapport à sa taille? Donc on va essayer de lui dire, ce papier-là, on va lui donner une note, entre guillemets, un score, et essayer de se dire, ce papier-là, est-ce qu'il a une valeur aujourd'hui? Parce que l'idée quand même qu'un article ait une valeur d'un jour, c'est quand même le système du print. Le print, c'est l'article a une valeur pendant un jour et après il est périmé. Et sur le numérique, on se rend compte que c'est pas vrai. Qu'un très bon article, il a une valeur aujourd'hui, il a une valeur demain, il a une valeur dans un mois.
Nabil Wakim, vous vouliez réagir, je crois.
Oui, je pense que c'est vraiment une approche qui est très intéressante parce qu'en fait, en réalité, le nombre d'articles qui vont être écrits par des robots, c'est pas ça le plus intéressant dans l'automatisation ou les algorithmes qu'on peut utiliser. Ce qui est intéressant, c'est comment on peut conseiller les journalistes pour faire les meilleurs choix possibles. Et évidemment, une de ces questions, c'est comment on fait face à la masse de notre propre production. On produit, nous, 300 contenus par jour. C'est impossible de les lire tous. C'est impossible de s'en souvenir. Donc, comment on fait? Et nous, on est dans un processus dans lequel on est en train de refaire notre site, en commençant par le site mobile. Et évidemment qu'une des réflexions, c'est de dire, sur notre home, sur la page d'accueil du monde.fr, comment on peut faire pour aider les gens qui sont les éditeurs de Une à prendre les meilleures décisions possibles? Quels articles on peut leur proposer pour faire des choix qui ne soient pas basés uniquement sur les gens de tous les services viennent les voir en leur disant « S'il vous plaît, mettez mon article en Une, c'est le meilleur et il mérite absolument d'y figurer ». Donc ça, c'est vraiment cette aide à la décision. Elle existe déjà dans d'autres outils du commerce, absolument, mais je crois que c'est vraiment très intéressant. J'ajoute juste que c'est ce qui existe déjà sur Facebook aujourd'hui. Quand on gère une page Facebook, en fait, on a des propositions de mise en avant qui sont basées sur les partages, la popularité de ces contenus-là sur Facebook. C'est important qu'on puisse développer, nous, nos propres outils, notre propre regard dessus, avec des critères qui sont des critères journalistiques et qui sont pas simplement des critères de succès en termes de clics, même si l'audience est très importante, mais qui sont aussi des critères de ce que nous, on pense intellectuellement, journalistiquement pertinent pour notre audience.
Mais justement, Gaël Hurliman, est-ce que vous avez la sensation que les investissements que vous avez réalisés sont aujourd'hui payants? Alors, payants peut-être en termes de nombre d'abonnements, et puis payants en termes d'audience qualitative, c'est-à-dire de gens qui viennent régulièrement et qui lisent vos longs formats et pas seulement les petites brèves. Gaël Hurliman.
Oui, absolument. Donc nous, on mesure bien sûr les clics parce que c'est ce qu'attend la pub, mais aussi le temps passé sur chaque article. Et là, on voit des gains majeurs. On voit un temps passé sur un article qui était un temps moyen de 30 secondes. On passe la minute maintenant en moyenne sur le site du temps. En termes d'audience, on a dépassé nos concurrents. Donc on sait que maintenant, ce qui compte aussi, c'est que les journalistes comprennent aussi l'intérêt de leur article. Est-ce que cet article va convertir des gens en abonnés? Est-ce que cet article va flatter le lectorat usuel du temps? Est-ce que cet article va être destiné à aller pêcher des nouveaux lecteurs qui ne nous connaissent pas sur Facebook? Est-ce que cet article va être derrière le paywall, puisqu'on est un site qui nécessite un abonnement? Est-ce que cet article, à l'inverse, on va devoir payer nous pour le promouvoir, pour le pousser à des audiences qui sont vraiment très très loin de nos audiences classiques? Tout ça, plus la rédaction sera impliquée dans ces questions qui, avant, dans le print, étaient à un autre étage ou commercial, plus on aura cette intelligence et savoir vraiment à quoi ça sert ce qu'on fait et comment on va mesurer le succès de ce qu'on fait. Et si le journaliste lui-même est impliqué là-dedans, eh ben, on pense qu'on aura un levier supplémentaire.
Les médias, en ce moment, ont plutôt tendance à plateformiser leur contenu, comme on dit, leurs articles, leurs vidéos. Est-ce qu'il n'y a pas le risque un peu d'une dépendance, Gaël Hurliman?
Oui, il y a le risque d'une dépendance et je pense qu'il faut qu'on soit très pragmatique. On voit des positions dogmatiques de médias qui sont anti-Facebook, qui sont anti-Snapchat, contre Twitter, qui trouvent que c'est n'importe quoi, qui ne veulent pas utiliser YouTube. Et nous, on essaye d'être assez pragmatique et de se dire, OK, on bosse avec eux, on a beaucoup à apprendre. Il ne faut pas non plus qu'on oublie ce que Facebook ou d'autres sont capables de faire en matière de connaissance des usages. Nabil vient d'en parler. Ils sont bien meilleurs que nous, ils sont bien meilleurs que beaucoup de médias. Donc il faut qu'on travaille avec eux, mais qu'on ait le couteau dans le dos, prêt pour leur donner un bon coup le jour où on sera capable d'être indépendant. Et c'est tout à fait admis, hein. Ces entreprises de la Silicon Valley travaillent comme ça entre elles. Apple n'a pas de système de cartes. Il utilise les cartes de Google sur son iPhone. Le jour où Apple est prêt, il dit au revoir à Google, il développe son propre système et il est autonome. Et il n'y a pas de souci. Donc on travaille avec eux. On prend de l'argent quand il y a de l'argent à prendre. On a besoin de l'argent qui vient de ces diffuseurs qui ont pris le pouvoir, il faut l'admettre sur certains points. Mais on se prépare aussi à être autonome parce qu'un jour, ils nous proposeront des conditions qu'on ne voudra plus accepter.
Bien, écoutez, je vous remercie. Nabil Wakim, Gaël Hurliman, Jean Abiatessi, merci de votre visite. Merci.
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 Je rappelle que toutes les références sont à retrouver sur atelier.rfi.fr. La semaine prochaine, nous prolongerons ces réflexions sur la transformation des groupes de presse en se focalisant cette fois sur l'information locale. D'ici là, n'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux. L'Atelier des médias, une émission préparée par Manon Mella, Mathias Virilli, Camille Deloche, à la réalisation Simon Decreuse, au micro Julien Lebotte. L'Atelier des médias vous salue bien, vous êtes sur RFI. Merci d'être à notre écoute.
Tous les cinémas